Chapitre 13 Dans la vallée du Tarn. Une nouvelle route conduit de Pont-de-Mauvert à Florac par la vallée du Tarn. C'est une voie sablonneuse et douce, située à mi-hauteur entre le sommet des collines et la rivière au fond de la vallée. En suivant ce chemin, je passais alternativement d'une baie ombreuse à un cap ensoleillé. C'était une sorte de défilé comme celui de Killiecrankie, un ravin profond qui serpentait entre les montagnes. Dans le bas, le Tarn faisait entendre un grondement sourd d'un effet impressionnant. Au-dessus, les hauteurs rocailleuses surgissaient dans la lumière. Une ligne de frêne bordait la crête, comme du lierre se cramponnant aux ruines, mais plus bas, sur les pentes et au fond de chaque ravin, les troncs massifs des châtaigniers se dressaient vers le ciel, sous leurs tentes de feuilles. Certains semblaient solidement plantés, chacun d'eux sur une petite terrasse, pas plus large qu'un lit. D'autres, se fiant à leurs racines, prenaient assez de force pour croître et prospérer, grands et élancés, accrochés aux pentes rapides de la vallée. D'autres encore, quand les rives étaient assez larges, formaient au bord de la rivière une rangée majestueuse et puissante, comme des cèdres du Liban. Et pourtant, même quand ils poussaient en masse serrée, ils ne pouvaient évoquer l'idée d'un bois. On eût dit plutôt une troupe de robustes individus. Chaque arbre formait un large dôme qui se détachait au milieu de ses compagnons, comme une sorte de colline. L'air était imprégné du faible parfum, très doux, qui émanait de ces arbres. L'automne avait mêlé ses teintes d'or mat à la verdure, et le soleil, traversant le feuillage abondant, le baignait d'une telle lumière que chacun des châtaigniers se détachait sur ses voisins, non pas en ombre, mais en clarté. L'humble peintre désespéré laisse ici tomber son crayon. Comment pourrais-je donner une idée du majestueux développement de ces arbres? Ils étendent leurs maîtresses branches, comme le chêne, laissent pendre leur feuillage à la manière du saule, se dressent sur des colonnes cannelées, comme les piliers d'une église. Ou bien, comme l'olivier, font jaillir des souches tordues de jeunes pousses tendres qui commencent une vie nouvelle sur les débris de l'ancienne. C'est ainsi qu'ils participent de la nature de plusieurs arbres et même leurs bosquets de feuilles en pointe, regardés à contre-jour, prennent un faux air de palmier qui impressionne l'imagination. Mais leur personnalité, bien qu'elle soit composée de tant d'éléments divers, n'en est que plus riche et plus originale. Regarder d'en haut ce moutonnement de feuillage ou bien voir une tribu de ces vieux arbres invincibles rassemblés comme une troupe d'éléphants sur le versant d'une montagne, c'est s'élever aux puissances qui dorment dans la nature. Par suite de l'humeur musarde de Modestine, par suite aussi de la beauté du paysage, nous n'avançâmes guère dans le courant de l'après-midi. À la fin, voyant que le soleil désertait déjà la vallée du Tarn, bien qu'il fût encore assez haut dans le ciel, je me mis à chercher tout alentour un endroit où je pourrais camper. Ce n'était pas facile à trouver. Les parties en terrasse étaient trop étroites et le terrain partout ailleurs était trop en pente pour qu'on pût s'y étendre. J'aurais glissé toute la nuit et me serais éveillé vers le matin les pieds ou la tête dans la rivière. Environ un mille plus loin, je vis, à quelques 60 pieds au-dessus de la route, un petit plateau où je devais avoir assez de place pour déplier mon sac. Le tronc puissant d'un vieux châtaignier formait un parapet de tout repos. C'est là qu'avec une peine infinie, à force de coups de pied et d'aiguillons, je hissais mon baudet récalcitrant, puis je me hâtais de le décharger. Il n'y avait place que pour moi sur le plateau, et je dus grimper encore presque autant avant de trouver un endroit où Modestine pourrait au moins se tenir debout. C'était sur un éboulis de pierre, formant une terrasse artificielle qui n'avait certainement pas en tout 5 pieds carrés. J'attachai la bête à un arbre. Et après lui avoir donné de l'avoine et du pain, lui avoir préparé un tas de feuilles de châtaignier dont elle s'était montrée friande, je redescendis à mon lieu de campement. C'était un endroit bien trop en vue. Une ou deux charrettes passèrent sur la route, et tant que la nuit ne fut pas tombée, je me dissimulais de mon mieux, comme si j'étais vraiment un camisard pour chasser, derrière cette fortification qu'était l'énorme tronc du châtaignier. En fait, j'avais une peur affreuse d'être découvert et de recevoir en pleine nuit la visite de mauvais plaisants. Bien plus, je constatais qu'il faudrait m'éveiller de bonne heure. En effet, il était facile de voir qu'on avait travaillé la veille dans ces plantations de châtaigniers. Les pentes étaient jonchées de branches coupées, et ça et là, des feuilles étaient préparées en tas contre des troncs d'arbres, car les paysans se servent aussi des feuilles en guise de fourrage pour l'hiver. Je mangeais sur le pouce dans la crainte et le tremblement, tout recroquevillé pour n'être pas aperçu de la route. J'ose dire que j'étais aussi inquiet que si j'avais été éclaireur de la bande de Johanny sur les hauteurs de la Lozère, ou de celle de Salomon de l'autre côté du Tarn, dans les temps anciens où le sang coulait au chant des psaumes. À vrai dire, je l'étais peut-être encore plus, car les camisards avaient en Dieu une confiance absolue. Une histoire me revient à l'esprit. Un jour, accompagné d'une troupe de dragons, le comte de Gévaudan chevauchait, son notaire à ses côtés, pour contraindre les villageois du pays à prêter le serment de fidélité. Ils tombèrent sur Cavalier et ses hommes en train de dîner, assis gaiement sur l'herbe, leurs chapeaux couverts de guirlandes de buis, tandis qu'une quinzaine de femmes lavaient leur linge dans le ruisseau. C'était là le type d'un festin champêtre en 1703. À cette époque, Antoine Watteau devait peindre des scènes du même genre. C'était tout autre chose que le campement de la nuit précédente dans le silence et la fraîcheur des bois de sapin. Il faisait chaud et même étouffant dans la vallée. Avant que le soleil fût couché, j'entendais déjà monter des bords de la rivière la voix stridente des grenouilles, semblable au trémolo d'un sifflet à roulette. Dans le crépuscule qui tombait, des bruissements imperceptibles couraient çà et là parmi les feuilles qui jonchaient le sol. De temps en temps, un faible cri, une sorte de gazouillement parvenait à mon oreille, et par moments, il me semblait voir une forme indistincte glisser furtivement entre les châtaigniers. Une multitude de grosses fourmis s'agitait à mes pieds, des chauves-souris voltaient, et j'entendais les moustiques siffler au-dessus de ma tête. Les longues branches, avec leurs feuilles en touffe, se détachaient sur le ciel comme des guirlandes, et celles qui s'entrecroisaient autour de moi avaient vaguement l'air d'un treillis bousculé et renversé par une tourmente de vent. Pendant longtemps, le sommeil fuit mes paupières, et juste au moment où je sentais enfin la paix s'insinuer dans mes membres, s'apesantir sur mon esprit, je fus réveillé en sursaut par un bruit tout près de ma tête, qui, je l'avoue franchement, me glaça le sang. C'était comme si quelqu'un avait gratté énergiquement le sol de ses ongles. Cela se produisait sous le havresac qui me servait d'oreiller, et je l'entendis trois fois avant d'avoir le temps de me mettre sur mon séant et de regarder autour de moi. Je ne voyais rien, je n'entendais plus rien, excepté ces bruissements mystérieux, tantôt proches, tantôt lointains, et l'accompagnement incessant de la rivière et des grenouilles. J'appris le lendemain que les bois de châtaigniers étaient infestés de rats. Les bruissements, les cris, les grattements étaient probablement leur fête. Mais pour le moment, l'énigme était insoluble, et je dus prendre sur moi pour m'endormir, toujours perplexe et intrigué par ces voisins troublants. Je fus réveillé au petit jour, lundi 30 septembre, par un bruit de pas qui résonnait sur les pierres, non loin de moi. En ouvrant les yeux, j'aperçus un paysan qui s'avançait entre les châtaigniers par un sentier que je n'avais pas remarqué encore. Il ne tourna la tête ni à droite ni à gauche, et disparut en quelques enjambées derrière le feuillage. Je l'avais échappé belle. Mais il était évidemment plus que temps de se mettre en branle. Les paysans étaient au champ. Ils n'étaient guère moins redoutables pour moi dans cette situation insolite que les soldats du capitaine Poul pour un camisard révolté. Je fis manger Modestine aussi vite que possible. Mais en revenant à mon sac, j'aperçus un homme et un jeune garçon qui venaient vers moi en descendant la colline. Ils me hélèrent d'une manière inintelligible et je répondis par des sons inarticulés, mais empreints de bonne humeur, tout en me hâtant de remettre mes guêtres. Tous deux, père et fils, à ce qu'il semblait, gravirent lentement le plateau et se tinrent quelque temps près de moi sans mot dire. Le lit n'était pas refermé et je fus contrarié de voir mon revolver posé bien en vue sur la couverture bleue. Enfin, Après m'avoir examiné des pieds à la tête, comme le silence devenait ridiculement embarrassant, l'homme demanda d'un ton qui semblait plutôt hostile. « Vous avez dormi là ?»«
Oui, lui dis-je, comme vous voyez. »«
Pourquoi ? » reprit-il.
« Ma foi, répondis-je d'un ton dégagé, j'étais fatigué. »
Il demanda ensuite où j'allais, et ce que j'avais pris pour mon dîner, puis sans la moindre transition. « C'est bien, ajouta-t-il, allons-nous-en. » Alors, sans un mot de plus, lui et son fils se dirigèrent sur un châtaignier tout proche et se mirent à l'émonder. Tout s'était passé beaucoup plus simplement que je ne l'avais espéré. C'était un homme sérieux, respectable, et son ton hostile n'impliquait pas qu'il croyait parler à un criminel, mais tout bonnement à un inférieur. Je ne fus pas long à regagner la route, et je grignotais une tablette de chocolat, sérieusement occupé par un cas de conscience. Devais-je payer quelque chose pour ma nuit? J'avais mal dormi, le lit avait été envahi par des fourmis en guise de puce, il n'y avait même pas d'eau dans la chambre. L'aurore même avait négligé de m'éveiller le matin venu. J'aurais certainement manqué mon train, si j'en avais eu un à prendre près de là. Bien considéré, je n'étais pas satisfait de la manière dont j'avais été traité, et je décidai de ne payer que si je rencontrais un mendiant. La vallée paraissait encore plus jolie dans la lumière du matin. Bientôt la route descendit au niveau de la rivière. Quelques châtaigniers bien droits et de belle venue formaient comme une île sur le gazon. C'est là que je fis ma toilette dans le Tarn. L'eau était merveilleusement claire, d'une fraîcheur qui donnait le frisson. Les traces de savon disparaissaient, comme par enchantement dans le courant rapide, et les roches blanches offraient un modèle de propreté. Se laver dans une des rivières que Dieu a faites, à la face du ciel, c'est un acte à la fois solennel et joyeux, une sorte de rite à demi-païen, tandis que barboter dans les cuvettes d'une chambre à coucher, c'est peut-être un moyen de tenir le corps propre. Mais l'imagination ne prend point sa part à cette purification. Je continuai ma route d'un cœur léger et paisible, tout en chantant des psaumes à l'être suprême. Soudain, j'aperçus une vieille femme qui, de but en blanc, me demanda l'aumône. « Bien, pensai-je, voilà le garçon qui apporte la note. » Et je payai sur le champ le prix de ma nuit. Croyez-le si vous voulez. Mais ce fut le seul mendiant que je rencontrai de tout mon voyage. Un ou deux pas plus loin, un vieillard coiffé d'un bonnet brun me rattrapa. Il avait les yeux clairs, la peau tannée, un demi-sourire enthousiaste. Une petite fille le suivait, conduisant deux moutons et une chèvre. Elle marcha sur nos talons, tandis que le vieillard se tenait à côté de moi. Nous devisions sur la pureté du matin, sur la beauté de la vallée. Il n'était guère plus de 6 heures. Pour des gens bien portants qui ont assez dormi, c'est un bon moment pour s'épancher, pour causer cordialement, à cœur ouvert. Connaissez-vous le Seigneur ? Dit-il enfin. Je lui demandai de quel Seigneur il parlait, mais il ne fit que répéter sa question avec plus d'emphase, et je vis dans ses yeux une expression d'espoir et d'intérêt. Ah ! Répondis-je, en indiquant le ciel du doigt, je comprends maintenant, oui, oui, je le connais, il est le meilleur des amis. Le vieillard se déclara enchanté. « Tenez, ajouta-t-il en se frappant la poitrine, cela me donne de la joie ici. Nous sommes quelques-uns à connaître le Seigneur dans cette vallée, dit-il ensuite. Pas beaucoup, mais quelques-uns. » Et il cita ces mots. « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » « Mon père, lui dis-je, il n'est pas facile de savoir qui connaît le Seigneur ou non, et ce n'est pas notre affaire. Les protestants, les catholiques et même ceux qui adorent les pierres peuvent le connaître et être connus de lui, car il nous a tous créés. » Je ne me savais pas un tel talent de prédicateur. Le vieillard m'assura qu'il était de mon avis et répéta qu'il était vraiment heureux de m'avoir rencontré. « Nous sommes si peu nombreux, dit-il. Ici on nous appelle des Moraves, mais là-bas, dans le département du Gard, où ils sont aussi un certain nombre, on les appelle derbistes, d'après le nom d'un pasteur anglais. » Je commençais à comprendre que je me trouvais jouer le rôle de membre d'une secte qui m'était inconnue. C'était d'un goût douteux. Mais j'étais plus heureux du plaisir de mon compagnon qu'embarrassé de ma situation quelque peu équivoque. À vrai dire, je ne vois aucune déloyauté à ne pas avouer une divergence d'opinion, et spécialement en ce qui concerne ces idées élevées. Nous savons tous bien que si les autres peuvent être dans l'erreur, nous-mêmes, nous ne possédons pas la vérité absolue. On discute beaucoup sur la vérité,
mais ce vieillard en bonnet brun se montra si simple et doux, si amical, que je ne serais pas éloigné de reconnaître qu'il m'a converti. Il était en fait un frère de Plymouth. Je n'ai pas idée de ce que cela implique comme doctrine, et je n'ai pas le temps de me renseigner à ce sujet. Mais ce que je sais bien, c'est que nous tous, les enfants d'un même père, nous sommes embarqués dans un monde agité, et que, sur plus d'un point essentiel, nous nous efforçons d'agir et de nous perfectionner dans le même sens. C'était évidemment par suite d'un malentendu qu'il me serrait les mains à tout instant et se montrait si disposé à m'écouter. Mais ce genre de malentendu nous aide à nous rapprocher de la vérité. Car la charité commence par avancer les yeux bandés, et ce n'est que par une suite de méprises de cette sorte qu'elle s'élève enfin et devient un principe bien établi d'amour et de patience, une confiance absolue en tous nos semblables. Si j'ai trompé ce bon vieillard, je me sens tout disposé dans un cas pareil à en tromper d'autres. Et si jamais, enfin, au sortir du triste chemin que nous suivons chacun de notre côté, nous devions nous retrouver dans un monde meilleur, j'aime à garder l'espoir que mon frère de Plymouth se hâtera de revenir me serrer la main. C'est ainsi qu'en causant le long du chemin comme Chrétien le pèlerin et fidèle, nous arrivâmes tous deux dans un hameau sur le Tarn. C'était un endroit modeste, appelé la Vernède, qui contenait à peine une douzaine de maisons et une chapelle protestante sur une petite éminence. C'est là qu'habitait mon compagnon. C'est là que je commandais mon déjeuner à l'auberge du village. L'auberge était tenue par un sympathique jeune homme, casseur de pierres sur les routes, et par sa sœur, une jolie fille avenante. Le maître d'école entra un moment pour parler à l'étranger. Tous étaient protestants. Cela me fit plus de plaisir que je n'aurais cru. Et ce qui me plut surtout, c'est qu'ils avaient tous l'air droit et simple. Le frère de Plymouth tournait autour de moi avec un tendre intérêt et revint au moins trois fois s'assurer que je déjeunais de bon appétit. Je fus alors profondément touché de sa manière d'agir et maintenant encore je suis ému en y pensant. Il craignait d'être importun, mais il ne pouvait se résoudre à s'éloigner de moi un seul instant, et il ne se fatiguait jamais de me donner des poignées de main. Quand tous les autres se furent dispersés, je restai près d'une demi-heure avec la jeune maîtresse de maison, qui, tout en causant, me parlait gentiment de la récolte de châtaignes, des beautés du Tarn et des vieux liens de famille qui se brisent quand les jeunes quittent la maison, mais qui subsistent pourtant. Je suis bien sûr qu'elle avait une nature douce, d'une simplicité paysanne, mais avec un grand fond de délicatesse. Celui qui saura se faire aimer d'elle sera sans aucun doute un heureux mortel. La vallée au-dessous de la Vernède me plaisait de plus en plus à mesure que j'avançais. Par moments, les montagnes nues, couvertes d'éboulis, se rapprochaient des deux côtés, enfermant la rivière entre de hautes murailles. Plus loin, la vallée s'élargissait et devenait verdoyante. La route passait devant le vieux château de Miral, perché sur une éminence devant un ancien monastère fortifié qu'on avait transformé depuis déjà longtemps en une église avec son presbytère. Plus loin encore, près d'un fouillis de toits noirs, c'était le village de Cocurès, au milieu de vignobles, de prairies et de vergers constellés de pommes rouges. Tout le long du chemin, les paysans gaulaient des noix sur les arbres situés au bord de la route. Ils les recueillaient dans des sacs et des paniers. Bien que la vallée fût maintenant assez large, les montagnes étaient toujours aussi hautes et dénudées, avec des remparts rocheux d'où émergeait çà et là un sommet pointu. Le Tarn courait toujours sur les pierres avec son bruit de torrent. D'après les récits de voyageurs, à l'imagination fantasque, je m'étais attendu à trouver un de ces paysages d'horreur chers à Byron. Mais pour mes yeux d'Écossais, c'était une contrée riante et riche, qui donnait même à cette arrière-saison une impression de plein été. Pourtant, les châtaigniers étaient déjà dépouillés par l'automne, et les peupliers qu'on commençait à voir çà et là avaient pris une teinte d'or pâle à l'approche de l'hiver. Ce paysage était souriant malgré sa sauvagerie, et cela m'expliquait l'âme de ces presbytériens du Midi. En Écosse, ceux qui se réfugièrent dans les montagnes pour sauvegarder leurs croyances n'avaient que des pensées sombres et vivait dans la crainte du démon. Pour une fois qu'ils recevaient le secours de Dieu, il leur fallait bien lutter deux fois contre Satan. Tandis que les camisards n'avaient que des visions lumineuses et consolantes. Plus que les Écossais, ils étaient prodigues de sang versé, n'épargnant ni le leur ni celui d'autrui. Pourtant, je ne retrouve jamais dans leurs récits l'obsession du mauvais esprit. À cette époque, fertile en événements tragiques, ils suivaient leur chemin, la conscience tranquille. L'âme de Séguier, ne l'oublions pas, était un jardin. Ils savaient que Dieu était pour eux, avec une certitude qu'on ne retrouve pas chez les Écossais, car ceux-ci, s'ils avaient foi en leur cause, restaient toujours pleins de défiance. « Nous volions, raconte un vieux camisard, quand nous entendions le chant des psaumes. Nous volions comme si nous avions des ailes. Nous sentions en nous une ardeur qui nous animait, un désir qui nous transportait. Les mots ne peuvent exprimer ce sentiment. Il faut l'avoir éprouvé pour le comprendre. Quelle que fût notre fatigue, elle était vite oubliée, et nous nous sentions joyeux et légers dès que le son des psaumes arrivait jusqu'à nous. La vue de la vallée du Tarn, les gens que je rencontrais à la Vernède, tout cela m'expliquait non seulement ces paroles, mais aussi les 20 années de souffrance que ces hommes si rudes supportèrent avec une douceur d'enfant et une patience de saint ou de paysan.